La dernière nuit d'une reine, par Félix Davin. On était en plein hiver, et jamais la ville de Paris, qui ne s'étendait pas alors au-delà de la petite île qui forme aujourd'hui la cité, n'avait été assaillie par une pluie plus violente et par des vents plus impétueux. Les maisons les plus solides, et jusqu'à celles qui n'étaient point couvertes de chaumes et bâties en cloisons de terre, se sentaient ébranlées jusque dans leurs fondements. La Seine elle-même mugissait, et semblait vouloir sortir de son lit pour inonder la ville, ce qui ne lui arrivait alors que trop souvent. Aussi chacun, plein de crainte, se tenait chez soi, écoutant ces bruits sinistres avec terreur, et priant Dieu de détourner de dessus Paris les fléaux qui le menaçaient. Arrivé depuis une semaine de la ville de Rome, où il avait été chercher des reliques que lui accordait le pape, l'évêque de Tours, Grégoire Florentius, songeait avec regret au ciel pur et au climat heureux de l'Italie, si différent de l'horrible tempête qui mugissait en ce moment. Plus d'une fois, alarmé par quelque redoublement de fracas, il quitta le volume de parchemin sur lequel il écrivait pour se tourner vers deux prêtres, ses vicaires, dont l'un dormait profondément, tandis que l'autre tournait dans ses doigts les grains d'un rosaire. Mais honteux de son agitation, en voyant le calme de ses hommes, il reprenait son travail, qui consistait à revoir, sur la prière du pape, certains passages de son Historiae Ecclesiasticae Francorum Libri Decem. Il en était à l'un de ces passages qui montrent combien, à cette époque, le christianisme naissant était déjà la proie de misérables discussions de mots et de subtilités théologiques, aujourd'hui non seulement sans valeur, mais encore tout à fait inintelligibles et qui rétrécissaient aux proportions ridicules de l'ergotage, la religion de Jésus, qui serait encore une sublime philosophie si elle n'était la loi divine. « Je crois, écrivait-il, je crois donc en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur Dieu, né du Père, non créé. Je crois qu'il a toujours été avec le Père, non depuis un temps, mais antérieurement à tous les temps, car celui-ci ne pouvait être appelé Père s'il n'avait un Fils, et il ne pouvait y avoir un Fils s'il n'y avait un Père. Ceux qui disent « il était quand il n'était pas », je les repousse avec horreur et j'affirme qu'ils sont rejetés du sein de l'Église. Je crois que le Christ est le Verbe du Père, par qui toutes choses ont été faites. Je crois qu'il est le Verbe fait chair et que par sa mort le monde a été racheté. Je crois qu'en lui c'est l'homme et non le Dieu qui a été soumis à la passion. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il a délivré l'homme perdu, qu'il est monté au ciel où il est assis à la droite du Père et d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois que le Saint-Esprit a procédé du Père et du Fils, qu'il n'est ni inférieur ni postérieur à eux, mais leur égal. Qu'il est Dieu de toute éternité avec le Père et le Fils, qu'il est consubstantiel à eux en nature, égal en toute puissance, coéternel en essence, en sorte qu'il n'a jamais existé sans le Père et le Fils, et qu'il n'est inférieur ni au Père ni au Fils. Je crois que cette sainte Trinité subsiste dans la distinction des personnes, et qu'autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Je confesse dans cette Trinité une seule divinité, une seule puissance, une seule essence. Je crois que la bienheureuse Marie, vierge avant l'enfantement, est vierge encore après. Je crois que l'âme est immortelle, mais cependant qu'elle ne participe point de la divinité. Enfin, je crois fidèlement tout ce qui a été établi par les 318 évêques assemblés en concile à Nicée. Touchant la fin du monde, je crois ce que j'ai appris de nos pères, c'est-à-dire que l'Antéchrist introduira d'abord la circoncision, se donnant pour le Christ. Ensuite, il placera sa statue dans le temple de Jérusalem pour la faire adorer, comme nous lisons que l'a dit le Seigneur. Vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Mais le Seigneur lui-même fait voir que ce jour est inconnu à tous les hommes lorsqu'il dit « Quant à ce jour ou à cette heure-là, nul ne les sait, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Et ici nous répondrons aux hérétiques qui nous attaquent et soutiennent que le Fils est inférieur au Père, puisqu'il ignore ce jour. Qu'ils sachent donc que ce Fils est le peuple chrétien, duquel Dieu a dit « Je serai leur Père, et ils seront mes fils. » S'il eût voulu parler de son Fils unique, il n'eut jamais en effet placé les anges avant lui, et il dit « Ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils », ce qui montre qu'il s'agit sinon de son Fils unique, mais de son peuple adoptif. Notre fin, c'est le Christ lui-même qui, dans son inépuisable bonté, nous accordera la vie éternelle si nous nous convertissons à lui. Il en était là lorsque tout à coup un bruit de chevaux et d'hommes d'armes se fit entendre et se dirigea vers le logis occupé par Grégoire de Tours. À ce bruit, l'évêque tressaillit. Le vicaire, qui priait, joignit les mains en s'écriant « Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam » et l'autre vicaire, qui dormait, s'éveilla dans un désordre d'idées où dominait la peur. Soudain, la troupe s'arrêta devant la porte, que frappèrent aussitôt violemment des masses d'armes, et une voix cria « Ouvrez, de par la reine Frédégonde !» Quelques serviteurs s'empressèrent d'obéir. La porte cria sur ses gonds, et un page, tout dégoûtant de pluie, entra, sans autre formalité, jusque dans la chambre où travaillait Grégoire de Tours. L'aspect de ce messager n'était pas fait pour rassurer, car son visage pâle, encadré dans de longs cheveux noirs en désordre, exprimait une inquiétude sinistre. « De la part de la reine Frédégonde, dit-il, mon père, il faut me suivre au palais, sur l'heure et sans retard. »« Mon fils, répondit l'évêque avec un sourire forcé, quand bien même je voudrais me soustraire à cette invitation, je n'en vois guère les moyens, car votre escorte paraît formidable. Je ne vous demande que le temps de dire une courte oraison. Vous aurez le temps de prier au palais, car on y a besoin de vos prières. Ne perdez pas de temps, venez. » Et prenant lui-même un manteau de fourrure d'ours qui se trouvait là jeté sur le lit de l'évêque, il en enveloppa le vieillard, l'entraîna vers un cheval tout sellé, que tenait par la bride un des hommes de l'escorte, et tous partirent au grand galop. Après environ 10 minutes de marche, ils arrivèrent devant le palais établi dans les termes de Julien. On les attendait, car au premier signal que donna de loin le page, avec le corps qu'il portait en bandoulière, les portes s'ouvrirent, et l'escorte entra sans ralentir la rapidité de sa marche et pour faire halte seulement dans les cours intérieures. Bien des pensées s'étaient succédées dans l'esprit de l'évêque de Tours durant le trajet de son logis au palais de la reine, et il faut le dire, ces pensées étaient de nature peu rassurante. Il connaissait la reine, et quoiqu'il ne l'eût offensé en rien, il ne pouvait augurer que des prévisions sinistres sur son entrevue avec elle, car avec de bons desseins, elle ne l'eût point envoyé chercher de la sorte pendant la nuit. Ce fut en recommandant son âme à Dieu qu'il descendit de cheval et qu'il fut introduit dans une vaste salle où il trouva la reine étendue sur une couche formée de peaux d'animaux féroces et que recouvraient de riches tissus. Grégoire n'avait point vu cette princesse depuis le jour terrible où le Saint-Évêque avait osé lutter contre la volonté royale et prendre la défense de Prétexta. Il eut de la peine à la reconnaître dans le fantôme livide qui lui apparut sur la couche royale, à la clarté des flambeaux que tenaient deux femmes immobiles comme des statues. Grégoire de Tours s'avança près de la reine, se prosterna suivant les usages d'orientaux introduits par les Romains jusque dans cette cour barbare, et attendit en silence que Frédégonde lui adressa la parole. Au lieu de menaces, au lieu de vengeance, l'évêque, non sans étonnement, reçut de la reine l'ordre de se relever et de s'approcher du lit. « Mon père, lui dit-elle d'une voix faible, j'ai besoin de vos prières et de vos exhortations, car vous êtes un saint aimé de Dieu, et le peuple parle avec transport des miracles obtenus par votre intercession. Reine, répliqua l'évêque avec humilité, je ne suis qu'un pauvre pécheur, et l'un des plus indignes serviteurs de Dieu. À votre voix, dit-on, les maladies guérissent et les infirmités cessent. Mon père, il faut que vous éloigniez la mort qui vient à moi. Dieu seul peut opérer de tels miracles. Je vous le répète, c'est à Dieu seul qu'il faut les demander, car je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je comblerai de dons ton église de Tours. Je ferai faire une chasse d'or massif aux reliques que tu rapportes de Rome. Je t'accorderai la grâce de 10 prisonniers. Je te donnerai tout l'or que tu me demanderas. Guéris-moi. Je ne puis que prier Dieu pour vous. Prie-le, prie-le, car je ne puis mourir à présent, vois-tu. Mon fils Clotaire n'est point encore d'âge à régner paisiblement. Et si je meurs, c'en est fait de lui, c'en est fait du repos du royaume. Or, ce repos m'a coûté cher. Il a fallu verser bien du sang pour le cimenter. Guéris-moi. Je vous le répète, puissante reine, les miracles n'appartiennent qu'à Dieu, et il ne les dispense pas à ma voix. Tu me refuses. Ah, tu ne sais donc pas que je suis la reine ? Tu ne sais donc pas que d'un signe de ma tête je puis faire tomber la tienne? J'ai des supplices qui prolongent les tortures pendant une semaine sans relâche, évêque, et je m'en sers pour punir la désobéissance. Guéris-moi donc, ou prépare-toi à souffrir et à mourir. » Que la volonté de Dieu s'accomplisse, répondit Grégoire en s'agenouillant. Frédégonde bondit sur sa couche comme une lionne, et saisissant un sifflet d'argent, elle en donna un signal qui rappela tous ceux qu'elle avait naguère éloignés par un geste de la main. « Qu'on saisisse cet homme et qu'on le poignarde !» s'écria-t-elle. Les serviteurs hésitaient à porter une main sacrilège sur le prélat, lorsqu'un jeune homme s'élança, prompt comme l'éclair, renversa Grégoire et leva sur lui son poignard prêt à frapper. C'était le page qui avait amené l'évêque. « Un instant encore, » dit la reine. « Attends un nouvel ordre pour en finir, Karl, mon brave, mon fidèle Karl. Obéiras-tu, Grégoire ?»« In manus tuas, domine, commendo spiritum meum, » murmurait le vieillard. Tout à coup, Frédégonde s'apaisa devant cette résignation. « Au loin, Karl. Qu'on me laisse seul avec cet évêque. Que personne n'entre avant que mon sifflet ne l'appelle. Allez !» On obéit. L'une des torches que tenaient les deux esclaves fut placée sur un bras de fer attaché dans la muraille pour cet usage, et Grégoire, encore tout étourdi de la scène qui venait de se passer, se trouva seul avec la reine. « Tu ne peux donc pas me guérir? Tu n'as donc point le pouvoir des miracles? Me le jures-tu sur ton salut? Je le jure en face de cette image de mon sauveur. Alors, si tu ne peux m'aider à vivre, Grégoire, il faut que tu me prépares à mourir. Et ce n'est guère un devoir plus facile. Entends-tu mourir? Quoi, demain? Quoi, tout à l'heure, peut-être? Il ne restera rien de ma volonté. Je ne serai plus là pour protéger ce que j'ai si difficilement édifié, ce que j'ai payé au prix de mon repos en ce monde, et peut-être de mon salut dans l'autre. Car Dieu ne me pardonnera jamais tout le sang que j'ai versé. Jamais, n'est-ce pas, évêque? La miséricorde de Dieu est infinie, reine. Profitez donc du temps qui vous reste encore pour mériter cette miséricorde et pour obtenir à force de repentir le pardon de vos fautes. Sauvez votre âme, renoncez à la terre pour ne plus penser qu'au ciel. Il ne peut y avoir de pardon pour moi devant Dieu. Un cri de repentir, un seul cri de repentir peut trouver grâce devant Dieu. N'est-il pas écrit « Frappez » il vous sera ouvert, repentez-vous. » Frédégonde se souleva lentement sur sa couche et regarda fixement Grégoire. Elle était belle encore. Ainsi penchée, demi-nue, les cheveux épars, on aurait dit une statue de marbre, toute blanche, à l'exception des yeux et de la chevelure, comme en faisaient alors les artistes barbares de cette époque à l'aide des monuments romains qu'ils défiguraient. « Et il pourrait y avoir pardon pour moi ?» demanda-t-elle encore une fois. « Repentez-vous, le temps presse. La mort peut-être tient le bras levé sur vous. » « Sois donc mon confesseur, évêque, et reçois mes aveux. Tu vas entendre de terribles paroles, mais songe-y bien. Les rois ne peuvent point se soumettre aux règles de conduite des autres hommes. Ce qu'est crime pour le vulgaire devient nécessité pour eux. Vous n'êtes plus la reine en ce moment, mais une pénitente, qui doit avouer ses fautes, les soumettre à son confesseur et se repentir, » interrompit solennellement Grégoire. La reine frémit à cette hardie interruption, elle devant qui naguère personne n'osait élever la voix sans qu'elle le permît. Mais bientôt elle reprit des pensées plus calmes et dit « Que Dieu me donne la force de tout dire, et à toi la force de tout entendre. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, fit l'évêque, je vous bénis et vous écoute en confession, parce que vous êtes dans la vraie foi du Concile de Nicée et que vous repoussez avec horreur les infâmes hérésies d'Arius et de ses fauteurs. Parlez, ma fille. Ce n'est plus un pécheur comme vous qui vous écoute, c'est le Saint-Esprit. » Frédégonde s'inclina sous la bénédiction du prêtre et se recueillit quelques instants. « Je ne suis point de sang royal, » dit-elle enfin. Et cet aveu lui coûta bien, car une vive rougeur empourpra son visage et s'étendit jusque sur son sein. À l'heure de la mort, tous les mortels sont égaux devant Dieu. Mais, toute pauvre fille que j'étais, je sentais au fond du cœur une voix secrète qui me promettait de la puissance. Aussi je n'eus point de repos avant d'être placé parmi les filles de la reine Andover, épouse du roi Chilpéric. Ce prince me vit et m'aima. « Si j'étais veuf, me dit-il un jour, tu seras reine. » Le soir même, il était veuf. Grégoire frémit. « Rassure-toi, prêtre, ce n'est point encore du sang versé. Andover venait de mettre au monde un enfant. Elle et moi, quand il compta 9 jours, nous le portâmes dans la chapelle où j'eus soin que ne se trouva pas la mère de la reine qui devait le tenir sur les fonds. Soyez vous-même la marraine de votre fils, lui dis-je. Le prêtre, que j'avais gagné à prix d'or, n'avertit pas la reine qu'en cédant à ce conseil, son mariage avec Chilpéric devenait sacrilège et devait être rompu. La cérémonie s'accomplit, et je courus chez le roi. Vous n'avez plus de femme, lui dis-je, et je lui contai ma ruse. Bien fait, dit-il. La reine va sur l'heure entrer dans un couvent. Je divorce avec elle. Je vais donc pouvoir enfin épouser la belle Galsvinte, sœur de Brunehaut. En effet, il me préféra cette fille d'Athanalgide, roi d'Espagne, cette belle-sœur de Sigebert, roi d'Austrasie. Elle était belle, elle était jeune, c'était une rivale redoutable. Un an après, j'étais reine de France. On avait trouvé Galsvinte morte dans son lit. « Mon Dieu, soyez miséricordieux, elle se repent, » murmura Grégoire. Sigebert voulut venger la mort de sa sœur, déclara la guerre à Chilpéric et nous assiégea dans Tournai. Encore quelques jours et je tombai en son pouvoir. J'avais 2 pages, 2 fidèles pages, natifs de Thérouanne. Je leur remis des poignards empoisonnés. 3 jours après, l'armée de Sigebert s'éloignait de Tournai, emportant avec elle le cadavre de son roi percé de 2 coups de poignard. Puis Brunehaut tomba dans mes mains. Brunehaut, qui avait voulu me perdre, elle et ses filles. Je la jetai dans un cloître à Rouen. Là, chaque jour, par mon ordre, on la déchirait à coups de verge et en répétant « Au nom de la reine Frédégonde !» Grégoire cacha son visage dans ses 2 mains. Chilpéric avait de sa première femme 3 enfants qui devaient régner après la mort de leur père et au détriment de mes fils. Tous les 3 moururent. Enfin, Chilpéric lui-même tomba sous les coups de Landry et je devins régente du royaume. Tu vois bien que ton Dieu ne peut me pardonner. Continuez votre confession pénitente. Faut-il te dire ce que tu sais? L'assassinat de l'évêque prétexta qui avait osé me désobéir. La tentative inutile que je fis faire par 2 clercs contre les jours du roi d'Austrasie et contre Gontran lui-même, Gontran, roi de Bourgogne, Gontran, mon bienfaiteur, qui m'avait protégé contre Childebert, quand je n'avais plus pour asile et pour royaume que la nef d'une église. Voilà tout. Quand elle eut fini, elle éleva sur le prêtre des regards pleins de doute, de désespoir et d'attente. Alors Grégoire se releva de toute la hauteur de sa taille et s'avança près de la couche avec majesté. « Frédégonde, demanda-t-il d'une voix solennelle, vous repentez-vous sincèrement ? Je me repens. Êtes-vous résigné à subir la pénitence que le Saint-Esprit va vous imposer par ma bouche ? J'y suis résigné. Comprenez-vous toute l'énormité de vos forfaits et reconnaissez-vous que vous méritez l'enfer et la damnation éternelle ? Je le reconnais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, écoutez donc et obéissez. Dépouillez-vous de tous les insignes de la royauté. Ordonnez que l'on vous couche sur la cendre et faites rassembler autour de vous toute votre cour, afin que les témoins de vos crimes et de votre puissance voient votre humiliation et entendent vos paroles de repentir. Demandez leur pardon du scandale que vous leur avez causé. Abaissez-vous, car le pardon de Dieu est seul à ce prix. Je t'obéirai, prêtre. En outre, jurez-moi, jurez sur le livre des saints évangiles, que si Dieu ne vous appelle point lui maintenant, que si vous guérissez... Guérir ? Guérir ? Tout espoir de guérison n'est donc point perdu. Oh, tu sais ce que je t'ai promis si tu faisais ce miracle. Jurez-moi d'entrer dans un cloître et d'y passer le reste de vos jours dans la pénitence et à pleurer sur vos crimes. Un cloître, à moi ? Es-tu gagné par mes ennemis ? Ah, prêtre, tu ne sais donc pas que je puis encore me venger, que je puis encore abattre ta tête, félon. Au nom de Dieu, par le salut de votre âme, repentez-vous, repentez-vous, il ne vous reste pas une heure pour vous sauver de l'enfer, repentez-vous. Je me repens, mais pas de cloître, entends-tu bien? Je veux mourir, comme j'ai vécu, reine, reine de Soissons et de Lutèce. Elle prit son sifflet d'argent et en tira quelques sons qui firent accourir un page. Que l'on me couche sur de la cendre, et que chacun entre librement dans le palais pour écouter l'amende honorable de la reine Frédégonde qui se meurt. C'était un étrange et grand spectacle que cette reine, naguère si terrible, étendue sur la cendre au pied d'un évêque, et entourée de ses serviteurs et de ses gardes. Quelques torches seules éclairaient les groupes formés autour de Frédégonde, et jetaient sur elle leur clarté vacillante. « Écoutez-moi, dit-elle, je demande pardon à Dieu et aux hommes. Qu'il me pardonne et que la miséricorde divine soit précédée de la miséricorde terrestre. Ouvrez les prisons et dites aux captifs, vous êtes libres. Priez pour la reine. Merci, merci. Es-tu content, évêque Grégoire ? » Le prélat se mit à deux genoux, bénit la reine et commença la cérémonie de l'extrême onction. Puis, quand il eut terminé, il se tourna vers la foule qui s'était agenouillée à son exemple. De profundis, mes frères, dit-il. L'âme de Frédégonde était devant Dieu. Frédégonde fut enterrée dans l'église Saint-Germain-des-Prés. Il y a dans le cœur de cette église, dit le père Daniel, un tombeau sur lequel on voit la figure plate d'une reine, en mosaïque. On prétend que c'est la figure de Frédégonde, et l'inscription le dit. Il y a beaucoup d'apparence que cette figure est originale et que ce n'est point un ouvrage fait plusieurs siècles après la mort de la princesse qu'il représente, comme le sont les tombeaux de Childebert et de Chilpéric qu'on voit dans la même église. Monsieur Lenoir croit que cette mosaïque en émaux est de l'an 600, mais que l'inscription « Frédégondia Regina, Uxor Chilperici Regis » est d'une date plus récente. Ce monument se trouve au musée des monuments français. Ainsi s'achève « La dernière nuit d'une reine » par Félix d'Avins.